Bonjour à tous, Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Figure de l'Histoire. Alors habituellement, je vous raconte la vie d'un personnage historique. Eh bien aujourd'hui, c'est d'un couple dont il va être question. Tous les deux sont originaires du nord de la France. Elle, Julie Marie dit Jeannette, née en 1910 à Lille, à la Charité maternelle Sainte-Anne. C'était une institution catholique qui reçoit pendant 10 jours, au moment de leur couche, les femmes indigentes, mariées ou pas d'ailleurs, et qui en plus donne une layette. Eh bien, Jeannette pense cela la gêne parce qu'elle n'en parlera pas. Ce n'est pas que sa mère soit indigente qui la gêne, c'est parce qu'elle a accepté la charité d'une institution catholique. Alors elle habite la banlieue de Lille, ça s'appelle la Madeleine. C'est une ville de tissage. Les maisons sont en enfilade, les filatures de tissage sont associées à un monde de femmes. Lui, Maurice, voit le jour le 28 avril 1900 à Noyelles-Godault en plein pays minier. La maman est, comme on dit à l'époque, fille-mère. Le père, c'est Henri Breton, il est épicier. Alors on ne sait pas si c'est cet écart-là qui a rendu le mariage impossible, en tout cas il n'a pas eu lieu. Alors, donc de qui s'agit-il ces deux personnes ? Eh bien de Jeannette Vermerche et Maurice Thorez. La maman de Maurice épouse Louis Thorez en 1903, et ce dernier donne son nom à Maurice. Jusqu'alors, il était resté élevé par son grand-père maternel qui s'appelle Clément Baudry, qui est houilleur et qui plus tard d'ailleurs tiendra un estaminet. Alors ils vivent dans un pavillon du Coron. Maurice entre à la maternelle de Noyelles-Godault et dans ses souvenirs, il ne parle pas beaucoup de sa scolarité, sauf d'un instituteur, M. Averland, un de ceux qu'on appelait, vous savez, à l'époque, les hussards noirs de la République. Il va au catéchisme parce que c'est une habitude. Et dans le Nord, l'autorité de l'Église est très grande. Alors chez Jeannette, on est plutôt gauche laïque. Elle ne fait pas sa communion. Maurice, lui, fait partie de la fanfare municipale. Il joue du cornet à piston. Et la vie associative dans le Pas-de-Calais est absolument importante. En 1912, il est reçu premier au certificat d'études. Le grand-père Baudry est socialiste. Il admire les grands syndicalistes, Bazly, Lamandier. Il n'aime pas le jeune syndicat CGT. La catastrophe de Courrières, je pense que vous en avez entendu parler, le samedi 10 mars 1906, marque l'apogée du conflit entre jeunes et vieux syndicats. Cette catastrophe, c'est le premier souvenir précis de Maurice. Vous savez que c'est le plus grave de toute l'histoire de la mine en France. Le bilan a été terrifiant, 1176 morts. Cette catastrophe est suivie alors de manifestations gigantesques. À 12 ans, Maurice devient trieur à la mine. L'enfance de Jeannette, elle, c'est différent. La famille habite une petite maison de 3 pièces, sans salle d'eau bien sûr. Dans le petit jardin, on élève des poules, quelques coqs. Le père a la passion des gens du Nord, vous savez, le combat de coqs. Le père est débardeur, c'est-à-dire qu'il est docker, il décharge les péniches sur les quais du port fluvial de Lille. C'est un métier difficile, si bien qu'il en change souvent, et en plus, il boit. Le personnage important, c'est la maman, courageuse, honnête au travail, altruiste. Jeannette quitte l'école à 10 ans et demi. Jeannette et Maurice viennent donc tous les deux du Nord, Pas-de-Calais. Leur origine de classe semble identique, mais finalement elles sont différentes. Parce que la société des mineurs est très structurée. Le logement, le chauffage, la nourriture, les vêtements sont assurés, même si le travail bien sûr est difficile et le danger menaçant. Le syndicalisme y est puissant. Et dans l'univers du textile, c'est tout à fait autre chose. C'est un, on peut dire, un désordre social. On y est au bord de la misère. On meurt de faim. Qui plus est, le papa est violent. Alors, éclate la guerre de 14-18. Le grand-père Baudry et Maurice sont conduits de force dans la Creuse, où ils travaillent dans des fermes misérables. Le 23 mars 1917, ils quittent la Creuse, ils partent pour Paris, de la direction Amiens, où ils sont embauchés à Dreuil-les-Amiens par le patron d'une scierie. Ils conduisent la péniche qui transporte le bois. Enfin, c'est l'armistice. Maurice rejoint ses parents, qui sont partis en Belgique, et le 3 janvier 1919, la famille est de retour à Noyelles. Jeannette et Maurice et leurs proches ont été épargnés. Les pères n'ont pas été au front. Maurice, lui, il a échappé à la mobilisation et puis il ne s'est pas engagé volontairement. Mais il voit les départements du Nord ravagés, les mines démantelées, la misère partout. Ce qui est important, c'est que Maurice a fait l'expérience d'un autre milieu quand il est allé dans la Creuse. Il a beaucoup lu pendant les hivers creusois. Son intérêt pour la politique s'est éveillé. Son patron creusois, d'ailleurs, lit l'humanité. Il lui a appris ce que sont les bolcheviks, lui a parlé de Lénine. À l'Est, il y a eu cette révolution-là en octobre. Jeannette et Maurice sont tombés sous le charme de l'octobre révolutionnaire. En mars 1919, Maurice Thorez adhère au Parti socialiste et milite au comité de ce qu'on appelle la Troisième Internationale de son département natal. Congrès à Strasbourg, et on prononce le divorce avec la Deuxième Internationale, et on désigne Marcel Cachin et Ludovic Oscar Frossard pour aller à Moscou, constater la réalité de la révolution, discuter avec les leaders bolcheviks. Je rappelle que le bolchevisme, c'est une révolutionnaire marxiste. Et puis, après ça, revenir en France pour rendre compte à leurs camarades. Alors, ils arrivent à Moscou en juillet 1920. Ils assistent au deuxième congrès de la toute nouvelle internationale communiste. Et en août, ils télégraphient à Paris pour dire qu'ils sont partisans de l'adhésion française à l'internationale. Retour en France, ils sillonnent le pays pour provoquer des adhésions au communisme que les rapports de police appellent le communisme moscoutaire. Paul Vaillant-Couturier, écrivain, avocat, se dépense sans compter en de nombreux meetings, certains dans le Pas-de-Calais, et à Noyelles-Godault, Maurice Thorez distribue les tracts, organise des réunions, vend des journaux. Il travaille maintenant comme mineur de fonds. Le 7 mars 1920, Maurice est appelé pour faire son service militaire au 72e régiment d'infanterie. Alors, il dit que ça ne lui a pas laissé des traces mémorables. Il est resté simple soldat. Ses compagnons remarquent qu'il a une mémoire exceptionnelle et qu'il est très généreux. Après les 24 mois de service, la mine ne va pas le reprendre. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait des petits boulots, il est manœuvre, il est peintre en bâtiment. C'est évidemment une situation qui est tout à fait banale dans le Nord, parce que chez les premiers militants du Parti communiste, ils perdent souvent leur travail, et puis ils font des petits boulots, et finalement, ils sont appointés par le Parti communiste, ou alors à une organisation qui est liée à ce parti. Nous allons faire une première pause musicale.
Костер запылает, и чаша пуляет, цветами
sommes sur Radio Grand Ciel, je vous raconte la vie de Jeannette Vermerch et Maurice Thorez. Donc Maurice qui ne travaille plus dans la mine et qui fait des petits boulots. L'année qui suit le service militaire est celle des véritables débuts de Thorez comme militant au sein du tout nouveau Parti communiste. Le 23 janvier 1921, premier congrès fédéral du Parti socialiste, SFIC, section française de l'Internationale communiste. Alors, il ne deviendra Parti communiste qu'après le congrès de mai 1921. Maurice se marie le 8 septembre 1923 avec Aurore, qui est la sœur d'un copain, Arthur Dubus. Ils ont un garçon, Maurice Junior, qui naît le 26 juillet 1926. Et curieusement, dans son journal, Maurice escamote ce premier mariage. Thorez se dépense sans compter. Il court ou pédale de réunion en réunion. Où donc ? Eh bien, les réunions, elles ont lieu dans les mairies communistes, dans les estaminets, parfois chez des particuliers. Il prend la parole, il rédige des articles, des tracts. Le 7 décembre 1922, une réunion est organisée par le syndicat des mineurs de Courseulles-les-Lances. Le public est clairsemé. Thorez prend la parole. C'est le premier document de police que nous connaissons dans lequel il est mentionné. Localement, Maurice devient une vedette. Il commence à connaître les milieux dirigeants, à se familiariser avec les luttes internes au parti et à l'international. Le troisième congrès du Comintern, ça c'est l'abréviation russe pour dire l'international communiste, s'est tenu à Moscou le 12 juillet 1921. La situation a changé depuis 1917. Il faut que le mouvement communiste consolide ses positions. Il faut qu'il conquiert les masses. La règle, et je cite, « Tout parti désireux d'appartenir à l'international communiste doit poursuivre une propagande persévérante et systématique au sein des syndicats, coopérations et autres organisations de la masse ouvrière. » Ces noyaux communistes doivent être complètement subordonnés à l'ensemble du parti. Pas d'indépendance. Désormais, la CGT et la CGTU, ça veut dire ULU, veut dire unitaire, sont rattachés au parti communiste, ce qu'on appelle le Profintern. C'est toujours en russe, l'international syndical rouge. Le Comintern, donc, envoie des émissaires à Paris. Beaucoup des responsables bolcheviques ou mencheviques, c'est une distinction qu'on fait entre le menchevique, ça veut dire simplement qu'ils sont en minorité. C'est le mot russe pour dire minoritaire. Ils ont séjourné en exil. Alors, ils font bien sûr des rapports à Moscou. Vous remarquerez, tout est lié à chaque fois à Moscou. 15 au 19 octobre 1922, congrès du Parti communiste à Paris. Thorez est l'un des 341 délégués. On chante l'international, on communie avec les représentants de la révolution russe. Janvier 1924, au congrès de Lyon, Maurice est élu membre suppléant du comité central. En octobre 1924, il est désigné comme secrétaire de la région du Nord et payé en conséquence. Dès ces années, Thorez se distingue. Le 4 février 1925, il est inscrit au carnet B de la préfecture du Pas-de-Calais et arrêté en cas de mobilisation. Si on essaie de comprendre son ascension dans le mouvement communiste, on peut noter qu'il possède une culture d'autodidacte très largement supérieure à celle des camarades du parti. Il possède, et je l'ai déjà dit, une mémoire prodigieuse, il sait s'organiser. Il sait écrire, il est naturellement très ordonné, vraisemblablement on peut ajouter ambitieux. Son talent oratoire frappe, ainsi qu'un certain charisme. Alors laissons Thorez pour parler maintenant de Jeannette. En 1929, on lui propose de faire partie d'une délégation ouvrière chargée de représenter les travailleurs du Nord aux célébrations du 12e anniversaire de la Révolution russe à Moscou. Elle accepte. Bah oui, mais elle n'a pas de sous. Et puis, elle n'a pas de passeport. Bon, Toutes les usines de tissage se cotisent. Elle a donc l'argent. Il lui faut une autorisation paternelle, puisqu'elle n'a pas 21 ans. Hein, la majorité à l'époque, c'était ça, c'était 21 ans. Comme le papa semble un petit peu insignifiant, c'est maman qui donne l'autorisation. Et donc, voilà que Jeannette va partir à Moscou. On a laissé Jeannette à 8 ans lorsque... qu'est-ce qui s'est passé? Non, je ne vous ai pas dit à 8 ans. À 10 ans et demi, elle a quitté l'école. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, elle a quitté l'école pour faire quoi? À cet âge-là, vous vous rendez compte? Elle fait des ménages et elle lave le linge. 6 jours sur 7, selon la coutume du Nord, elle lave en plus la façade de la maison, les portes, les volets, les fenêtres, le trottoir, le caniveau, et tout l'intérieur du rez-de-chaussée au deuxième étage. À 12 ans, en maquillant son âge, elle entre à l'usine de textile. Elle est la meneuse d'une grève, évidemment, elle est mise dehors. L'embauche est désormais impossible. Elle adhère alors au syndicat et commence l'apprentissage de la lutte politique. On peut dire que dans ces générations de jeunes gens devenus permanents, le mécanisme est identique. La grève ou le militantisme interdit toute nouvelle embauche. Ils sont immédiatement signalés à tous les patrons. Le parti, c'est la seule porte de sortie. Il n'y a pas de retour possible, aucun ne redevient ouvrier, mais le métier qu'ils ont exercé jeune devient le quartier de noblesse indispensable pour faire une carrière dans le parti communiste. Donc Jeannette entre dans la vie syndicale, elle prend la tête d'un groupe de 40 garçons. Dans le Nord, des femmes siègent dans toutes les instances de direction. Donc Jeannette part avec les sous qu'elle a obtenu maintenant, elle part pour Moscou. Elle y arrive à l'automne 1929. Elle est partie avec un faux passeport tchèque que le syndicat lui a procuré. Nous allons faire une deuxième pause musicale.
Oh!
sommes sur Radio Grand Ciel. Je vous raconte la vie de Maurice Thorez et Jeannette Vermerch. Et Jeannette vient de partir pour Moscou. Donc, c'est le syndicat qui lui a procuré un faux passeport tchèque parce qu'elle n'a pas pu en avoir un. Pourquoi donc ? Eh bien, elle est fichée communiste. Dans le train, elle retrouve des jeunes ouvrières venues d'un peu partout en France. On voyage sur des banquettes en bois, vous savez, et le voyage dure 3 jours. On arrive à la frontière, un grand panneau, et qu'est-ce qui est écrit dessus ? Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Comité d'accueil très joyeux, dans les rues de Moscou, elle voit un grand nombre d'enfants errants. On lui dit que ce sont des orphelins échappés des écoles et des centres. Bon, c'est une réponse absurde, hein. En fait, le pays est dans une très grande pauvreté. Jeannette, elle accepte l'explication. Elle écarte tout questionnement qui met en cause sa croyance. La moitié de la population est constituée de marginaux, au statut social précaire, surveillés par la police. Et l'omniprésence de la surveillance policière est passée sous silence par tous les récits communistes. Les voyageurs sont soigneusement encadrés, ne passent que quelques jours dans la ville et n'aperçoivent rien de la réalité. Pour Jeannette, le ressort de son aveuglement et son enthousiasme, jamais démenti pour le communisme, peut s'expliquer, parce qu'elle identifie les progrès de l'humanité à ceux qui adviennent dans sa propre existence, comme si à elle seule, elle incarnait le prolétariat international. Comme communiste, son existence est améliorée, elle pense que chez tous les communistes, c'est la même chose. Désormais, elle visite des usines, elle assiste à des meetings, elle est accueillie partout avec une vraie fraternité. Et c'est l'une des valeurs revendiquées par les communistes. Jeannette ne revient pas en France. On lui propose de rester. Eh bien, elle reste. Elle loge dans un petit hôtel qui accueille des militants syndicaux. Moscou change de visage avec le plan de reconstruction de 1935. C'est à cette époque qu'est construit le fameux métro. C'est l'époque où s'offre aux moscovites le monde des loisirs avec l'immense parc de la culture. Gorki, Staline, peut déclarer sans ironie « Camarade, la vie est devenue plus gaie ». Bon, on va laisser Jeannette en URSS. Jusqu'à maintenant, la reconnaissance de Thorez est venue de ses propres mérites. Et désormais, il est en contact avec la vraie lutte pour le pouvoir. Le 24 janvier 1925, il est élu membre permanent du comité central. Il est choisi pour participer à Moscou à la conférence d'organisation qui doit s'ouvrir le 15 mars 1926. C'est son premier voyage. Ce séjour en Union soviétique a pour lui, comme pour tous les communistes, valeur d'initiation et de promotion. Il y rencontre le Gotha du mouvement communiste international. Il y côtoie les dirigeants du pays. Il devient de plus en plus populaire, mais ses prises de position font qu'il est arrêté, transféré à la santé, au quartier des détenus politiques, où sont déjà certains de ses camarades. Pierre Lacan, rédacteur à l'Humanité, qui sera fusillé par les Allemands le 11 août 1942. Gabriel Péri, aussi rédacteur à l'Humanité, qui sera fusillé par les Allemands le 15 décembre 1941. Paul Vaillant-Couturier, député de la Seine. Le 14 juillet, Thorez est transféré en train à la prison Charles III de Nancy. Une prison d'une vétusté extrême. Les détenus vont et viennent comme ils veulent, de 7h du matin à 19h. Alors, évidemment, les politiques se regroupent pour une étude collective. Maurice Thorez fait des cours à partir de l'ABC du communisme de Boukharine. Boukharine, c'était le chef de l'Internationale communiste et rédacteur en chef de la Pravda. Et sur les questions du léninisme, de passer de Lénine à Staline. Déjeuner en commun, les politiques sont bien nourris grâce aux colis envoyés par le Secours Rouge. Après le repas, on joue aux cartes, on joue aux boules, tout ça c'est dans la prison, hein. Et Maurice joue de l'accordéon. Vers 15h, il se retire pour travailler jusqu'au soir. Et après dîner, il s'y remet jusqu'à 23h. Sa femme Aurore vient s'installer alors à Nancy avec leur fils Maurice Junior. Elle rend de nombreuses visites. Enfin, il quitte la prison le 23 avril 1930 et il part pour Moscou. Voilà Maurice et Jeannette à Moscou tous les deux. Elles rencontrent un jour un garçon du Morvan qu'elle connaît bien, Jean-Pierre Minard, qui lui parle de Thorez, avec qui il était en prison à Nancy. Et il s'exclame « C'est pas possible! Tu es du Nord, tu es de Lille et tu ne connais même pas Thorez !» Eh bien, c'est vrai. Elle connaît son nom, mais elle ne le connaît pas lui-même. Alors elle le voit là à Moscou brièvement, et pour lui, c'est le coup de foudre. Elle dit que c'est pas son cas. Bon. La voilà partie pour une délégation en Oural. Lui, Maurice, rentre en France. Lorsqu'il est sorti de prison, il a trouvé le parti dans un état lamentable. Les effectifs sont faibles. Thorez est convoqué à Moscou pour des explications. Vous remarquerez, hein, tout dépend à chaque fois de Moscou. Cela ne l'empêche pas d'y retourner pour l'assemblée plénière du comité exécutif de l'Internationale communiste le 25 mars. Ça va durer jusqu'au 13 avril 1931. Discours fleuve de Thorez. Quand je vous dis discours fleuve, il a parlé pendant 6 heures. La direction française est sanctionnée par Moscou. L'Internationale exige qu'il n'y ait plus un seul secrétaire du parti français, mais 3. Alors, qui ? Jacques Duclos, Maurice Thorez, André Marty. Et le parti français est prié d'obéir à Moscou. Bon, alors Thorez pense à démissionner. Bon, il a des difficultés conjugales, il est harcelé à l'Internationale, finalement il reste. Dans le parti, tout n'est pas rose. Beaucoup de tiraillements, beaucoup de critiques. À l'été 1931, l'autocritique est partout. Certains sont convaincus de la duplicité des dirigeants. Du 12 mai au 29 juillet 1931, il y a des grandes grèves textiles dans le Nord. Jeannette, qui est de retour du RSS, participe à l'agitation. Elle est maintenant fichée par la police et arrêtée le 5 août. Nous allons faire une autre pause musicale.
Мчится тройка, скачет, вьется пыль из-под копыт. Колокольчик звонко плачет, то хохочет, то звенит. Едет, едет, едет к ней, едет к Любушке своей, едет, едет, едет. Едет к Любушке своей.
Едет, 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 едет к Любушке своей. Едет, едет, едет к ней. Едет к Любушке своей.
Вот вдали село большое сразу ожил мой ямщик. Песни звонкою своей, едет, едет, едет к ней, едет к Любушке своей.
comme sur Radio Grand Ciel, je vous raconte la vie de Maurice Thorez et Jeannette Vermerche. Il y a de grandes grèves dans le Nord. Jeannette est revenue de Moscou, tout comme d'ailleurs Maurice, et elle participe à l'agitation de ces grandes grèves, si bien que, comme elle était fichée par la police, elle est arrêtée le 5 août. À la faveur de ces grèves, elle revoit Maurice. Alors, elle n'est pas payée par le parti, si bien qu'elle se place comme bonne. Elle est toujours militante, elle grimpe dans les hiérarchies, elle fait des promenades en bateau avec Maurice. Son capital scolaire, à elle, est mince. Elle a quitté l'école à 10 ans et demi, elle n'a pas son certificat d'études comme Maurice. Mais le Parti communiste a une école centrale. Donc, Jeannette y est envoyée, si bien qu'on peut dire qu'elle doit au parti de savoir construire une intervention, écrire des articles. Du 11 au 19 mars 1932 se tient à Paris le 7e congrès du Parti communiste français. Jeannette est présente. Thorez lit un rapport de 176 pages préparé à Moscou. Le congrès marque le début de la liaison de Maurice et de Jeannette. À sa sortie de l'école du parti, elle intègre le Bureau national des jeunesses communistes. Elle est maintenant rémunérée. Elle a 22 ans. Elle habite Paris dans une petite chambre en location rue de Meaux, puis avenue des Gobelins. Elle sillonne la France. Elle est vite fichée pour ses interventions lors des grèves, par exemple celle des usines textiles de Vienne. L'année 1938 marque le début du redressement pour le Parti communiste. Deux congrès sont des succès. Le congrès international contre la guerre en août 1932, à l'instigation de l'Internationale communiste qui met en avant Romain Rolland et Henri Barbusse, et celui de Paris en 1933. Les intellectuels sont séduits, inquiets qu'ils le sont, de l'arrivée au pouvoir d'Hitler, 10 ans après celle de Mussolini en Italie, et des risques que la politique de ces deux pays fait courir à la paix du monde. Il faut vous rappeler que Hitler a écrasé le Parti communiste allemand. À l'intérieur du Parti français, ce sont des luttes pour le pouvoir, par exemple entre Doriot et Thorez. Après la conférence d'Ivry du 23 au 26 juin 1934, où les discours d'ouverture et de fermeture de Thorez sont un véritable succès, il apparaît comme le grand triomphateur. Il a vaincu Doriot, il a la conscience des soviétiques et il a la capacité de mettre en œuvre une politique nouvelle. Il vit enfin auprès de celle qui est le grand amour de sa vie. Non pas qu'il ait pas aimé Aurore, avec laquelle il a quand même mangé son pain noir. La jeune femme a été à ses côtés dans les épreuves. Mais il n'a pas, d'ailleurs, il n'a pas beaucoup vu son fils, qui avait été confié aux grands-parents maternels. Avec Jeannette, les choses changent. Ils vivent dans un pavillon à Ivry, au rez-de-chaussée, un camarade qui fait office de garde du corps. Maurice y a son bureau. Le couple dispose d'une voiture avec chauffeur. La politique dont j'ai parlé tout à l'heure est la lutte antifasciste, la politique que Thorez veut mettre en route. Je vous rappelle que le fascisme, c'est un système politique autoritaire qui voit la nation et surtout le totalitarisme. Alors on signe un accord avec les socialistes. Aux élections municipales de 1935, la poussée du Parti communiste est spectaculaire. Certains écrivains, intellectuels ou artistes rejoignent momentanément ou durablement le PCF. Je vais vous en nommer quelques-uns. Ce sont André Gide, André Malraux, Romain Rolland, Louis Aragon, Elsa Triolet, Henri Barbusse. Au 7e congrès de l'Internationale, Thorez pénètre dans la tribune juste après Staline et s'assoit à ses côtés. Le 25 janvier 1936, pour le 8e congrès du PCF à Villeurbanne, Thorez prend officiellement le titre de secrétaire général. Le 8 février 1936, naît le premier enfant de Maurice et Jeannette, dénommé Jean. La campagne électorale de 1936 est une première pour la France. La radio y joue un grand rôle. Le 6 avril, pour la première fois, un communiste parle à la radio nationale. Il y prononce un discours resté célèbre sous le titre de « La main tendue ». Il parle d'un front populaire, du travail, de la liberté, de la paix. Il s'agit de s'unir avec les radicaux, les républicains et les démocrates contre les 200 familles et leurs mercenaires riches et corrompus. Les législatives sont un succès pour le Front populaire. Le président Albert Lebrun demande alors à Léon Blum de former le gouvernement. Il propose aux communistes d'en faire partie. Thorez le souhaite, mais ordre de Moscou, c'est non. La source de son pouvoir, elle est bien à Moscou. Son absolue fidélité et son admiration pour l'Union soviétique restent la pierre angulaire de son engagement et une constante, du moins jusqu'au 20e congrès. Il n'ignore pas que celui qui s'écarte des lumières du Kremlin s'approche dangereusement de la roche tarpéienne, vous savez, cette roche près du Capitole où les condamnés à mort étaient précipités. Cette année 1936 voit de vastes réformes. Les accords de Matignon du 11 juin, alors vous le connaissez ça, augmentation significative des salaires, convention collective, limitation du travail à 40 heures, congés payés. Mais de gros nuages apparaissent. Le 17 juillet, c'est le coup d'État du général Franco. Blum opte pour la non-intervention. Les communistes critiquent alors le gouvernement. Ils prennent parti pour l'Espagne. Le 31 décembre 1936, Thorez y part. Jeannette participe aux campagnes des jeunes filles de France pour aider l'Espagne. Du 25 au 29 décembre 1937, le congrès se tient à Arles. C'est le début du culte de Thorez. Le 26 décembre, l'Humanité publie la photo d'une jeune Arlésienne offrant un bouquet à Maurice. À droite, on distingue Jeannette Vermersch et Jacques Duclos. Le 13 février 1937, Blum fait une pause dans les réformes. Fureur alors de Thorez, le 13 mars 1938, Hitler déclare l'Anschluss, vous savez, le rattachement de l'Autriche à l'Allemagne, sans bien sûr l'accord de la population, Le 24 août 1939, pacte germano-soviétique. Le pacte est signé pour 10 ans. La répression s'abat alors sur le Parti communiste français. Le 2 septembre 1939, le Parlement français vote à l'unanimité, parlementaires communistes compris, les crédits de guerre. Et le 3 septembre, l'Angleterre puis la France déclarent la guerre à l'Allemagne. Thorez est mobilisé au 3e génie à Arras. L'URSS envoie ses consignes au PCF avec cette phrase à écrire partout. Cette guerre est une guerre impérialiste avec laquelle nous n'avons rien à faire. Le 3 octobre 1939, Thorez déserte. Le 25 novembre 1939, le tribunal militaire l'inculpe de désertion. Il est condamné à 6 ans de prison, séquestre de ses biens. Le Conseil d'État le déchoit de la nationalité française. Ses jours de liberté en tant que communiste alors sont comptés. Que fait-il? Il passe en Belgique. Il y est rejoint par Jeannette. Puis c'est le départ pour Moscou avec Jeannette et leur fils Jean. Au revoir à tous.